excellent dimanche. Oui, comment vas-tu?
Salut Patrick, ça va bien, merci toi.
Oui, 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 ça va bien, sauf qu'on dort peu. On regarde les Olympiques la nuit, on travaille le jour. C'est ça, l'amateur de sport en moi est comblé. Justement, je voulais qu'on commence par les Jeux Olympiques, parce que là, on annonce quasi immédiatement que les Jeux de 2032 vont être octroyés à Brisbane, en Australie. Est-ce que, si on voit qu'il n'y a quasiment pas de candidature comme ça, jeu après jeu après jeu, ça dit quoi de l'avenir des Jeux Olympiques?
Bien, ça a été annoncé cette semaine pour 2032. Ouais. La raison, selon le Comité international olympique, Patrick, c'est que on veut minimiser les coûts, on veut minimiser l'effort de villes qui posent leur candidature, on veut accélérer le processus. Alors, ce sont des raisons qui ont un spin très relations publiques.
Okay.
La réalité, c'est qu'il y a peu de villes candidates qui sont intéressées à postuler pour les Jeux olympiques. Mm-hmm. Il y a un coût effarant là, en termes de préparation des Jeux, mais il y a aussi un coût même pour poser sa candidature qui va frôler autour de 50 à 60 millions de dollars pour une campagne pour te présenter comme candidate. Alors, Brisbane va accueillir les Jeux, ça va être la troisième fois pour l'Australie, après Melbourne puis après Sydney. C'est un peu bizarre parce qu'il y avait un temps où la grande décision d'une ville qui allait gagner le droit d'accueillir les Jeux, c'était un moment important, tu sais, l'intrigue puis le mystère autour des Olympiques, c'est-à-dire l'annonce officielle puis le vote des membres du CIO.
Ben,
cette
écoute,
fois-ci, ils ont fait un vote.
Souviens-toi.
C'était 72 à 5.
Ah bon, tu vois, et souviens-toi, puis les plus vieux d'entre nous vont s'en souvenir, tu sais, de Jean Drapeau qui est là à l'époque, là, je pense,
tout
en 72 ou 71. Donc, et là, on annonce, et on ne s'attendait pas à ce que ce soit Montréal, sauf erreur, qui remporte à ce moment-là
le
Paris Olympique.
Ça donne une situation assez étrange. Tu sais, on commence les Jeux à Tokyo qui ont péniblement atteint la ligne de départ, si on veut, puis bravo aux gens qui ont patienté. Mais avec ça, il va y avoir des coûts astronomiques. On est rendu à près de 30 milliards de dollars une fois que la facture va être finale, dollars US. C'est pas drôle, puis la COVID est partout. C'est difficile pour les athlètes sur place, pour les organisateurs, difficile pour tout le monde. Mais à la fin, au moins, on s'est rendu. Alors, bravo pour ça.
Mais d'annoncer
tout de suite 2032, ça fait très étrange.
Mais je ne sais pas, Ray, ce que tu en penses, parce qu'il y a le site Inside the Games qui avait documenté, qui avait gratté un peu et qui avait documenté le fait que l'Inde, l'Allemagne, l'Indonésie, la Hongrie, le Qatar étaient toutes des destinations, des pays et des villes qui voulaient les Jeux de 2032, mais on ne les a pas vraiment retenus et on a plutôt poussé le dossier de Brisbane, qui est la nouvelle façon de faire du nouveau président du CEO, Thomas Bach. Et ça fait ce que tu as dit tantôt, ça évite des coûts, ça évite des déceptions aux villes qui ne sont pas choisies, donc il y a du positif là-dedans. Mais on n'est pas aussi en même temps en train de potentiellement passer à côté de villes qui auraient pu être des bonnes candidates?
Oui et non. La réponse est complexe, dans le sens que c'est certain qu'on aime élargir le cadre, puis avoir des villes qui n'ont jamais accueilli les Jeux. Mais on a vu dans le passé, à nombreuses reprises, les installations, les infrastructures être désuètes et non utilisées. Et moi, j'imagine mal les Jeux olympiques à Mumbai.
Ouais,
ou les Jeux olympiques dans une ville, dans un pays du tiers-monde, comme à Manille aux Philippines, par exemple. Parce que je ne pense pas qu'ils soient en mesure de pouvoir maximiser et exploiter l'infrastructure par la suite. Le dossier de Brisbane est assez simple. C'est qu'en Australie, c'est un pays très développé qui adore le sport. Et c'est une ville qui va pouvoir se servir de ça assez rapidement et même recycler des installations déjà existantes. Alors, tu sais, c'est complexe ce dossier-là. Il y a une chose qui est claire, c'est qu'à la fin, on en reparlera, là, mais le modèle olympique, quand on va conclure Tokyo et Beijing au mois de février prochain, on va devoir revenir à la charge à savoir qu'est-ce qui est faisable dans les années des temps modernes avec une nouvelle génération qui consomme différemment. Hier, par exemple, je regardais le basketball 3 contre 3.
Oui.
Puis c'est très différent ce qu'on voit de plus en plus aux Jeux olympiques. Ça ne serait pas étonnant qu'un jour, très prochainement, on ait du e-sport dans les Jeux olympiques.
Mmh, mmh.
Alors, tu sais, on s'en va vers une autre tendance complète, puis ça va forcer tout le monde à réfléchir attentivement à comment on présente les Jeux.
Quand on parle des Jeux olympiques, Ray, évidemment, on pense aux commanditaires aussi, là, Coca-Cola et autres. Compte tenu de tout ce qui se passe présentement à Tokyo, est-ce que les Jeux offrent, selon toi, une valeur aux commanditaires, une valeur réelle?
Ben, une valeur, oui. Une valeur aussi élevée, non. Quand tu n'as pas de spectateurs dans les gradins partout, tu perds beaucoup de cette attention-là. Il y a une catégorie de revenus qui va être affectée de façon énorme, ce sont les produits dérivés, normalement vendus aux spectateurs sur place. Mais les commanditaires vont quand même bénéficier de la visibilité télé. Mm-hmm. Et le rayonnement partout dans le monde. Mais c'est certain que pour eux autres aussi, c'est compliqué parce qu'ils ne peuvent pas activer sur place avec des gens physiquement présents. Ouais. Et ça aussi, ça fait partie de cette espèce d'avantage qu'ils ont d'être exclusifs dans l'univers. Mais ça coûte près de 100 millions par cycle de 4 ans, Patrick, pour commanditer les jeux. Alors, tu sais bien qu'ils sont déçus de voir un aboutissement comme ça, mais au moins à la télévision, ils vont pouvoir récupérer une grande partie de leur rayonnement.
Okay. Je sais que tu veux nous parler des Indians de Cleveland qui deviennent les Guardians, mais juste avant, je voulais m'assurer qu'on avait assez de temps pour nous parler de la sélection du Canadien, là, de Logan Mailloux. J'avais hâte de t'entendre là-dessus. C'est un choix controversé, évidemment. Qu'est-ce que ça peut représenter au bout du compte, au final, pour le Canadien?
Ben, il y a toujours deux côtés de la médaille. Il y en a qui vont dire, regarde, faut pardonner, laisser la chance à un jeune homme qui a fait une erreur importante. Effectivement, dans la vie, il faut pardonner, puis il faut laisser les gens. On est tous, on a tous fait d'énormes erreurs dans nos vies à tout moment. Alors, le jeune, à quelque part, devra avoir une autre chance pour se corriger, se mettre dans le bon chemin. Cependant, les Canadiens ont encore une fois démontré, selon moi, Patrick, qu'il symbolise un manque de valeur morale, mm-hmm. un manque de ce qu'on appelle en anglais « moral compass », c'est-à-dire le compas qui pointe vers le nord.
Okay.
Le nord étant la droiture puis la bonne direction. Ce n'est pas la première fois que les Canadiens et la façon dont ils gèrent leur équipe prennent des décisions qui sont vraiment étranges par rapport au côté humain. Par rapport à des départs de gens, par rapport à des ex-joueurs, par rapport à des retranchements de joueurs en plein milieu de match. Il y a toutes sortes de situations comme ça qui font en sorte que c'est un peu étrange comment les Canadiens agissent. Cette fois-ci, ils avaient l'occasion, parmi des centaines de joueurs disponibles, d'aller chercher un joueur. D'ailleurs, ils avaient un 30e ou 31e choix. Ouais. C'est pas comme si c'était le joueur le plus prisé du repêchage. Alors, ils ont mis le talent avant l'humanité. Ouais. Ils ont décidé que pour eux, les gestes du jeune garçon n'étaient pas si importants que ça. Puis ils ont raconté toutes sortes de choses par rapport à comment on va aider. J'ai hâte de voir comment ils vont aider de façon concrète ce jeune homme à se réhabiliter ou à corriger son erreur. Ceci étant, on est tous avec des fautes, donc on mérite tous une autre chance, je l'ai dit.
Ouais.
Mais d'un autre côté, les Canadiens avaient une chance de se positionner. Parce que quand tu construis une équipe, tu regardes d'abord le caractère des individus dans ton équipe. Dans un vestiaire, mais dans l'administration aussi. Puis, la différence entre les Canadiens et le Lightning de Tampa Bay, ça commence avec le caractère de l'organisation. Ça commence avec le caractère des joueurs. Ça commence avec comment tu construis ton équipe. Puis, tu vas chercher le meilleur talent disponible. Puis ça, c'est sans parler de l'effet sur la marque des Canadiens. Bon, est-ce que les gens vont retourner leur billet de saison puis leur loge? Probablement pas, Patrick. Mm-hmm. Parce qu'à la fin, on a prouvé dans le passé, dans le monde du sport en général, qu'on pardonne assez facilement, on tourne la page, puis on veut gagner. Puis si le jeune homme marque un but important un jour tôt dans sa carrière, on va penser à ce but-là, puis on va oublier. Mais on oublie, faut pas banaliser ce
absolument.
Geste-là.
Ouais. Et d'autant
il faut
plus
pas
que...
se laisser prendre dans le fait que notre objectif, c'est de bâtir la meilleure équipe de hockey possible. Ouais. Mais voyons donc.
Et puis d'autant plus, puis tu fais bien, tu viens de le dire, c'est que Marc Bergevin, depuis 4-5 ans, nous bassine avec ça en nous parlant de Shea Weber, de l'attitude dans le vestiaire,
oui.
du leadership, de l'homme qu'il est, important. Carey Price, la même chose. Donc, tu sais, c'est ce qui a expliqué pour plusieurs le départ de Piquet Subban. Et là, donc, ce qu'on fait, ben, c'est complètement le contraire. On va chercher un joueur.
Puis j'ai de la difficulté à voir, Patrick, comment ils ont rendu service à ce jeune homme-là.
Ah, je suis d'accord.
Honnêtement, je pense que c'est le contraire.
Ben oui, je suis bien d'accord.
Mettre dans une situation à un très jeune âge
ouais.
où lui va devoir répondre à ça là, beaucoup plus rapidement. Parce que je crois qu'il était sincère dans ses excuses, puis je crois qu'il avait positionné ça correctement en disant que je ne veux pas être repêché
exact.
Cette année, je
n'ai
pas mérité le droit d'être repêché. OK. Ouais. Mais là, les Canadiens, on dirait qu'ils l'ont, ils l'ont parachuté tout de suite sur la place publique pour faire face à tout ça.
Ah, absolument.
Puis là, ils disent
ans.
Après, ben, on va l'aider, nous. Ouais. Ah ouais, ouais. Ben, j'ai jamais vu les Canadiens, moi, réhabiliter les gens. Et se mettre dans une position. Parce que ça veut dire quoi? Qu'ils vont aller rencontrer des groupes de femmes qui ont été des victimes dans le passé,
ouais.
puis ils vont aller se positionner comme ça. Ils ne sont pas qualifiés pour faire ça non plus. Alors,
merci
encore
beaucoup,
une fois,
Ray.
Je trouve qu'ils ont banalisé l'affaire.
C'est super gentil. On se parlera des Indians et des Guardians
la prochaine fois,
la semaine prochaine. T'es bien gentil.